je ne reprends pas la première réunion qui était uniquement présentation, mais d'une certaine façon, en fait, on va faire un digest de ce qu'on a pu affirmer. En synthèse, il y a une seule réalité, en majuscule, qui n'a ni commencement ni fin, que l'on ne peut définir inaccessible à quelque mental que ce soit, et que l'on peut définir comme étant absolu. Que peut-on savoir de cet absolu qui, en fait, est à jamais inaccessible? Premier aspect de cet absolu, l'être-té. En d'autres termes, ce n'est pas un être. C'est l'espace abstrait absolu. C'est la durée. C'est le mouvement abstrait absolu ou conscience absolue. Cet absolu, dans son absolue conscience, a considéré qu'il n'y avait aucune gloire à être cela. L'absolu va donc émettre des vagues de vie dont la racine de vie sera en son sein. Ces vagues de vie vont devenir des éternels pèlerins, à tout jamais. Deuxième postulat de l'absolu, les vies plus avancées incluront dans leur manifestation les vies plus jeunes. Et bien évidemment, nous pouvons imaginer que toute l'existence sera sous haute surveillance. Les vies qui vont être émises vont parcourir l'évolution d'une façon éternelle, elles vont évoluer au mérite, et vous aurez les univers en manifestation à l'infini. Ce que nous devons également noter, c'est que cet univers, ces univers, dans toute dimension, sont, par le fait même qu'il y a un commencement, une fin, illusoires. Dans cette évolution au mérite, les vies, dans leur progression, que nous pouvons appréhender comme étant les trois règnes microcosmiques, le règne des particules, les ions, le règne des électrons, le règne des atomes, puis les règnes de la nature, puis le règne spirituel. Dans le règne de la nature, j'inclus l'homme du quatrième règne. Le règne spirituel, le cinquième règne. Le règne divin, le sixième règne. Le règne cosmique, le septième règne. Et bien sûr, au-delà, d'autres évolutions, mais pour ce qui est de notre dimension, nous avons un horizon où commencent les ténèbres lumineuses. Ce qui veut dire que, en fait, au-delà, nous sommes dans l'inaccessible de l'évolution cosmique ou supracosmique. Ce qu'il sera possible d'appréhender, c'est les confins de cet horizon qui concerne en fait cet univers et qui est repris avec les termes, en vous rappelant qu'on essaye d'éviter de générer des termes s'ils existent. Et on prend le terme qui pourrait exister, en d'autres termes, si vous voulez, cette vie grandiose qui donne la vie à cet univers est appelée Parabrahman. Et donc, en son sein, il y aura cette grande vie donnant chacune vie à un univers, dedans sept systèmes solaires, dans chaque système solaire, 12 planètes, et ainsi de suite. Vous voyez ? Bon. Voilà très brièvement tracé le panorama céleste. À ce niveau, vous avez des questions ?
Juste une toute petite précision, ces univers dans toutes dimensions sont illusoires ?
Tout ce qui vient à l'existe, donc l'exit de l'absolu, est illusoire. Puisqu'en fait, même si c'est des éternités, il y a un commencement, une fin. Le commencement, c'est ce que nos scientifiques cherchent, le Big Bang. La sortie, c'est le trou noir. Vous avez là, si vous voulez, la porte d'entrée, la porte de sortie. Ça, Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, la vie atteint une dimension où elle s'auto-crée. Et par essence même, toute sa création est entraînée dans le même processus d'évolution. L'homme est le point de départ basique du processus. Même si l'être du quatrième règne l'ignore, il crée des micro-mondes, dont bien évidemment, il aura la responsabilité dans la mesure où il aura appelé en manifestation des vies mineures, lesquelles devront être menées à leur dimension supérieure. En d'autres termes, sur le plan théorique, ces vies mineures étaient pures à l'origine, elles devront avoir progressé en ayant retrouvé leur pureté. Et celui qui les a en charge devra nettoyer les écuries.
Est-ce que vous pourriez concrétiser, donner un exemple par rapport à ces vies mineures ?
Alors, que sont les vies mineures ? Eh bien, pour se manifester, une vie a besoin de prendre véhicule, au pluriel. En ce qui concerne l'être humain, il a donc une racine de vie. Bon, vous savez qu'on a vu qu'il y avait les sept plans de l'évolution. C'est le cours 4. Alors ça, celui-là, c'est le plan schématique de la manifestation d'une vie qui donne la vie à cet univers avec tout ce que ça va entraîner dans son cercle infranchissable. Ce qui veut dire que vous avez sept plans d'évolution cosmique. En ce qui concerne l'homme, notre espace de manifestation est le septième en bas, ce qu'on appelle le plan physique cosmique. Que notre racine de vie est sur le deuxième sous-plan de ce septième plan, qu'on appelle le plan monadique. Que celui qui donne la vie à cet univers est sur le plan adique cosmique. C'est pour vous montrer les différences d'échelle d'évolution. Qu'à partir de là, pour ce qui concerne l'être humain, si je remonte, si vous voulez, sur le plan physique cosmique uniquement le tableau, sur le deuxième sous-plan, j'ai la racine de vie de l'être humain. Cette vie, qui dans l'échelle d'évolution des vies appartient à la quatrième hiérarchie créatrice, il y en a 12, pour ce qui concerne cet espace d'évolution, cette vie concernant la dimension humaine va à un moment donné remplir son contrat de vie. Et le contrat de vie pour toute vie, c'est prendre en charge des vies plus jeunes. À partir du deuxième sous-plan, la vie projette son rayon de manifestation, donc son souffle d'énergie, lequel va se trouver dans un premier temps enveloppé dans ce que l'on appelle les robes de la mer, c'est-à-dire les plans de manifestation en dessous, et vous avez ce qu'on appelle l'unité de conscience qui est créée à l'entrée du règne humain. Ce qu'il faut noter, c'est que hors manifestation, il n'y a pas de conscience, au sens où on l'entend. La conscience vient de l'union d'une vie majeure avec des vies mineures. Mais dans cela, il faut comprendre que les champs de conscience ne couvrent pas la soi-conscience. Ce n'est que quand la vie est arrivée à ce niveau d'évolution qu'il y a soi-conscience. Cinquième sous-plan, le plan de l'âme, donc de l'être permanent, de l'unité de conscience. Cette unité de conscience, cette âme, ce lotus égoïque, se trouve comme un œuf englué dans les vies qu'il attire à lui pour se créer des véhicules lui permettant d'appréhender les mondes de la matière. La vie que nous sommes, stade d'évolution, traversée de règne humain. Donc je suis sur le plan physique cosmique, le septième tout en bas. dans l'évolution des sept. Donc, 1, 2, donc plan monadique. Là, vous avez la racine de vie, projette son rayon dans les robes de la matière. Vous avez l'unité de conscience en réponse aux vies mineures. Je vous laisse donc supposer qu'à partir de là, dans les centres d'énergie créés par cette vie dite humaine, il va y avoir adhésion des vies mineures. Nous sommes ici sur le plan mental. Là, vous avez l'unité permanente, soit consciente, qui va donc traverser leur animal. À partir de là, cette unité de conscience, cette âme, va se projeter dans les mondes de la matière. Pourquoi elle le fait ? Pour répondre à son contrat de vie, les vies plus avancées auront en charge les vies plus jeunes. Il y aura donc création d'une unité qui va s'appeler l'unité mentale, ou corps mental concret, puis vous aurez une unité mémoire appelée atome permanent. Vous aurez donc l'atome permanent astral et l'atome permanent physique. Cet atome permanent est la banque de données historique depuis l'entrée dans l'âme humain, selon des cycles liés à la racine de vie, des cycles liés à l'âme, à l'être permanent. Alors pour vous ayez des repères, on va dire par rapport à une conscience collective, l'âme, l'être permanent, c'est Abel. Le petit frère, en bas, c'est Caïn. Et Caïn doit fusionner avec Abel. Ces vies mineures sont brutes de coffrage à l'entrée du règne humain. Donc il va falloir travailler le décoffrage. Comment vont-elles se manifester ? Elles vont se manifester par le désir. Comment reconnaître une vie mineure ? Par le ressentir de désir. Ce qui se traduira sur le plan physique, par des appétits physiques. Sur le plan émotionnel, par des passions et pulsions émotionnelles. Et sur le plan mental, par des formes pensées que je dirais uniques. C'est-à-dire que l'être épouse les pensées, les formes pensées de la masse. Il n'est pas libre de son discernement propre. Alors, dans la traversée du règne humain, vous avez trois grands cycles. Un réparti en deux longues périodes, le chemin de l'aller, la traversée du quatrième règne, puis le chemin du retour qui intègre le cinquième règne, et tout ce cycle de traversée du règne humain qui est double va être traduit au niveau programmation de l'évolution de la vie humaine dans la science de l'astrologie. Chemin de l'aller, la croix mutable, chemin du retour, la croix fixe et la croix cardinale. Sur le chemin de l'aller, il y a édification des véhicules. En d'autres termes, la forme de manifestation. Quand cette réalisation des véhicules est faite, vous avez ce qu'on appelle le corps mental concret, le corps émotionnel ou de sensibilité, le corps physique qui forme un triangle de synthèse, appelé personnalité. À la sortie du quatrième règne, l'homme est une personnalité active, épanouie. À partir de ce moment-là, le soi, l'âme, va pouvoir appréhender le contrôle, la maîtrise de sa manifestation. Elle va pouvoir se libérer de l'emprise de ses vies mineures. cela va se traduire et il va donc effectuer un processus de non-dépendance puis de maîtrise. Cela commencera par la non-dépendance des appétits physiques. Pour rentrer dans le cinquième règne, l'être doit ne plus dépendre de ses appétits physiques, de ses passions et pulsions émotionnelles. Vous aurez donc une première prise de conscience, éveil de conscience, appelé première initiation, qui amène l'être à ne plus dépendre de ses appétits physiques. Je ne dis pas qu'il doit devenir un ascète. Hein. Je dis simplement qu'il doit être à l'équilibre. La chose est tout à fait compréhensible. Hein. Si je nourris trop mon corps, je le déséquilibre. Si je ne le nourris pas assez, je le perturbe. Dans ce processus de non-dépendance, il y aura une deuxième saisie de conscience et processus de non-dépendance des passions et pulsions émotionnelles. En théorie, on va dire que chaque progression d'éveil de prise de conscience crante l'aspect inférieur. Donc, quand la personne arrive à la non-dépendance des passions et pulsions émotionnelles, dont on va dire l'expression peut être sur le plan physique, eh bien vous comprenez que cette non-dépendance aveugle aux vies mineures du corps astral impliquera une tenue plus équilibrée au niveau du corps physique. Quand l'être a été accepté pour avoir montré d'une façon, on va dire, stable cette non-dépendance, il rentre dans le cinquième règne et va s'approcher de la troisième grande prise de conscience, qui est en fait la première, où il ne va plus être en phase de non-dépendance, mais de maîtrise. Et cela implique bien évidemment le fait d'être un libre penseur, et il va être accepté dans le cercle extérieur de la maison du Père. Il devient un disciple en phase de maîtrise. Quand il montre une certaine stabilité, à ce moment-là, il devient un maître. On verra que les termes doivent être bien compris dans leur sens essentiel, c'est-à-dire un maître, c'est celui qui maîtrise, un disciple, c'est celui qui se discipline aux lois de la vie, mais pas le disciple de quelqu'un. Même si les jeunes, n'est-ce pas, cherchent toujours un ancien pour leur servir de guide, la réalité c'est que disciple, c'est se discipliner aux lois de la vie qu'on a saisi, intégré, reconnu. Puis, dans sa progression, en tant que jeune maître, il va franchir la quatrième porte, donc quatrième initiation, qui seront des vies, ça, parce qu'il faut croire, il faut bien penser qu'on ne franchit pas une porte de prise de conscience forcément en une seule vie. Au même titre qu'à contrario, on peut franchir deux portes dans une vie. Tout va dépendre en fait de la bonne tenue de l'intéressé. Quatrième initiation, pour passer de la troisième porte à la quatrième porte, il y a ce qu'on appelle l'initiation de renoncement à la vie terrestre. Ça veut dire de ne plus être attaché à tout ce que représente la vie terrestre. Ça ne veut pas dire la rejeter, c'est pas ça. Ça veut dire en aucune façon ne pas en dépendre. Donc de tous les attraits de la vie terrestre. Et bien évidemment, à contrario, l'intéressé peut très bien, comme on dit, être avec tout un contexte de grand confort, mais il n'en dépend pas. En d'autres termes, ça peut lui être retiré, ça ne le fera pas changer. Mais dans cette phase, si vous voulez, des deux portes, il est bien évident qu'il va être accroché au mur. Je veux dire par là que si il y a encore, ce qui est tout à fait normal, des points où il est, eh bien, ça va être mis, comme on dit, comme autant d'épreuves sur son chemin. C'est la phrase, ce que Dieu aime, il les châtie. Il lui met les épreuves, la maison du Père, donc les guides, lui mettent les épreuves libératrices de tout ce qui pourrait encore le remettre en dépendance des vies lunaires. Et dans ce monde terrestre, c'est loin d'être facile. De la quatrième à la cinquième, il a à devenir un initié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un serviteur actif de la maison du Père. Cela veut dire qu'en fait, il a dépassé ce qui concernait son propre chantier et il a tourné le dos à la maison du Père pour participer à la poursuite du travail planétaire. Il lui faut donc saisir ce qui lui a été donné au fur et à mesure depuis la troisième initiation, le dessein planétaire, pourquoi le Père, celui qui a créé cette planète, quelle est son intention, dans quel but il a créé cette planète de souffrance, et bien évidemment, il participe activement à la finalité du pourquoi de la souffrance. En d'autres termes, cette planète de souffrance a été créée pour que l'homme accède à une dimension de relation des vies humaines entre elles, c'est-à-dire de pratiquer de justes relations. Je vous rappelle en passant que la souffrance, ce n'est pas la souffrance de l'être. L'être que nous sommes ne souffre pas. Ce qui souffre, c'est nos vies mineures. Quand vous souffrez, en fait, c'est vos vies mineures qui pleurent, en disant « c'est épouvantable, on est maltraité ». Voilà, et ensuite, c'est la porte ouverte à la voie de l'évolution supérieure, puisque quand l'être a franchi la cinquième initiation, en fait, il rentre dans le sixième règne. Alors, vous allez me dire, c'est quoi des sixièmes règnes? Eh bien, en fait, ne prenez pas du genre « ah bon, ce sera plus un véhicule animal, ce sera quoi ?» Ce qui est essentiel, c'est le champ de conscience. Quand il vous est dit « Siddhartha Gautama Buddha » ou « Maitreya le Christ », ce sont des êtres dont le champ de conscience est celui du sixième règne, lorsque ce sixième règne se manifestera pleinement comme un nouveau règne sur le plan terrestre. Le cinquième règne est appelé le règne spirituel, le sixième règne est le règne divin. Alors derrière tout ça, et là je reviens au cours 2, mais disons que j'ai couvert, je pense, le fil conducteur des autres cours, et bien évidemment, dans la traversée du règne humain, vous avez des âges d'évolution. Au même titre que notre véhicule a un âge d'évolution, notre être intérieur a un âge d'évolution. Si bien que autour de nous, eh bien, nous voyons des êtres qui peuvent avoir un véhicule âgé et qui sont jeunes encore en comportement, donc en évolution, qui ne sont préoccupés que par leur personnalité, tandis que vous avez des êtres qui sont jeunes en véhicule et déjà très âgés en évolution. Ils portent en eux un instinct naturel à pratiquer de justes relations, ce qui commence par « je ne fais pas autrui ce que je n'aimerais pas qu'autrui me fasse ». Alors les plans, retenez que c'est des champs de conscience. Quand un être, quand on vous parle d'initiation, eh bien en fait cela se superpose aux champs de conscience. Quand un être veille à pratiquer de justes relations, il est en conscience de son être. Auparavant, il était dans la conscience de ses vies mineures. Quand il est en mental supérieur, il est en intelligence du cœur. Et son souci est d'être vrai. Quand il est en conscience bouddhique ou christique, je fais à l'autre ce que j'aimerais que l'autre me fasse. Est-ce que vous voyez la nuance entre les deux ? Quand il est en conscience bouddhique ou christique, en fait, il tend l'autre joue. À partir de là, son souci, c'est d'aider l'autre à devenir meilleur. Celui qui est en face de moi a un comportement qui est encore lunaire, comment puis-je l'aider à se libérer, sachant que cet être en réalité est un frère, mais aveugle. Et là, par conséquent, son souci, c'est d'utiliser cette énergie du plan bouddhique qu'on appelle le beau, mais qui a une dimension au-delà de l'aspect esthétique. Quand il est en conscience du plan atmique, il est maintenant le plan atmique, et vous voyez qu'en fait, du bas en haut, ça fait 5, hein, si vous inversez. Donc, vous comprenez que l'être, en fait, borde la cinquième initiation. À ce moment-là, il n'est plus, si vous voulez, centré sur lui-même, il veille au bien de l'ensemble. Donc en fait, il est en approche, en appréhension du dessein du Père, c'est-à-dire la volonté, et non plus l'énergie d'amour, l'énergie de volonté, et dont la caractéristique est la volonté de bien de l'ensemble. Quand il sort de cette dimension, il est en conscience du Père, donc de la monade, et par conséquent, il vit instinctivement ce champ de conscience qui n'est plus spirituel mais divin, l'unité de toute vie, et par conséquent, l'autre est une partie de moi-même et vice-versa. Mais ce que j'évoque là implique que ce soit intégré instinctivement en conscience. À partir de là, il ne voit plus rien du bas vers le haut, mais tout est vu du haut vers le bas. Je ferai une parenthèse pour vous en vous disant, ces perspectives sont les vôtres. Je fais comme si. Reprenons. C'est dans la traversée du règne humain. Aujourd'hui, un cinquième de l'humanité est entré dans le cinquième règne. Il est dedans, à un stade plus ou moins avancé. Et les deux autres cinquièmes qui suivent sont à la première initiation. Simplement, quand l'être a approché, il lui a été redonné les éléments de l'île de la connaissance, de la sagesse, et de la vie, eh bien, il faut qu'il sorte de son stade d'être uniquement étudiant, en d'autres termes, cinquième règne, le disciple, pour qu'il devienne l'initié, c'est-à-dire ce qu'il met en pratique. Vous découvrirez ultérieurement, si vous voulez, dans un autre cours, que ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous est révélé. Ce que nous révélons est de plus grande importance. On sera toujours un étudiant, à tout jamais, mais l'essentiel est de mettre en pratique. Oui, j'avais justement cette idée du collier de perles, en vous demandant si ça allait. Et ce que je voudrais surtout, si vous voulez, c'est vous faire saisir que c'est là. C'est pas quelque chose qui vous attend dans le futur et tout. Ça va uniquement reposer sur le fait que vous assumiez ce que vous êtes. Un initié l'est avant de le savoir. Mais vous ne deviendrez magnétique que parce que vous userez de l'énergie de volonté et donc qui est liée à l'expression du dessein du Père. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que vous êtes dans l'énergie d'amour, le règne spirituel, le cinquième règne, la caractéristique, c'est tout ce qui concerne la spiritualité. Quand vous appréhendez l'énergie de volonté divine, vous êtes dans le divin. Est-ce que vous voyez bien la différence entre l'énergie, les caractéristiques de l'amour et les caractéristiques de la volonté? Or, le processus de magnétisme est d'abord lié à la volonté. Ce qui veut dire, si vous voulez, que nous avons, et nous allons le voir dans les 12 observances, nous avons l'aiguillon du Père qui nous sollicite en dépassement de nous-mêmes. Donc, aller de l'avant. À notre rythme, bien évidemment. Mais il faut faire attention au fait que celui qui n'avance pas recule. Pourquoi il recule? Ben, simplement parce que l'humanité avance. Donc, vous êtes dans le courant, mais si vous arrêtez, le reste continue à avancer. Hein, mais il ne faut pas nous voir comme quelque chose d'isolé, mais comme étant une partie dans le vaste ensemble. Alors, quelle est la caractéristique de la vie dans le quatrième règne? L'être du quatrième règne apprend à raisonner. Et bien sûr, quand sa personnalité est établie, c'est « j'ai raison et je ne peux pas avoir tort ». Mais bien évidemment, quelle est la particularité du quatrième règne? C'est de développer l'unité de conscience, l'individualité de conscience. Alors, malheureusement, dans le monde où l'on est, cette individualité est entraînée dans la séparativité. Et vous noterez au passage qu'il n'y a qu'un seul péché qui est la racine de tout, c'est la séparativité. Je vole en me séparant de l'autre, je viole en me séparant de l'autre, et ainsi de suite. Alors, derrière cette séparativité, si vous voulez, il y a l'application, à savoir, quelle est l'évolution qualitative liée à l'intelligence? On va dire que dans la partie inférieure, c'est la bêtise, dans la partie supérieure, c'est l'intelligence du cœur. Alors, je ferai une parenthèse en vous soulignant que la bêtise est liée à l'orgueil, dans sa forme dynamique. Dans sa forme passive, est liée à la bouderie. Bouder, c'est manifester un orgueil passif. À partir de là, pour accéder aux justes relations, il faut détruire la muraille de la séparativité. Aux justes relations. Hein? Il faut faire tomber la muraille de la séparativité. Alors vous voyez qu'il y a deux phases, parce que la première, c'est de dire « je ne me sépare pas, je ne m'isole pas, hein, donc je ne fais pas autrui », mais la phase supérieure, c'est « j'aide les autres à devenir meilleurs, meilleurs moyens, n'est-ce pas, c'est pas en traitant un con de con qu'on l'améliore ». Alors pourquoi j'évoque ça? Eh bien, si vous voulez, parce que l'être du cinquième règne, en fait, va découvrir qu'il est une fontaine d'énergie, ou de vie, ou de mort. Ce qui veut dire que tout l'exercice, et notamment celui auquel nous participons ensemble, c'est d'apprendre à devenir un centre d'énergie responsable. En d'autres termes, ce qui va caractériser l'être du cinquième règne, c'est sa vigilance à rayonner, sachant que sa pensée, sa parole et ce qu'il traduit en acte, c'est de l'énergie ou de vie ou de mort. Et que bien évidemment, le pollueur sera le premier pollué. Oui, mais ça va très loin. Parce que nous sommes faits en manifestation, toute vie est faite par définition d'esprit et de matière. Toute vie, à quelque niveau que ce soit, est faite d'esprit et de matière. Qu'entend-on par là? Ce sont des termes qui, en fait, permettent au mental humain de saisir le sujet. La matière, on va rester au stade humain, mais vous avez des grandes vies pour lesquelles nous sommes perdus dans les bas-fonds de sa matière. La matière, ce sont toutes les vies mineures qui constituent notre manifestation. En d'autres termes, nous sommes l'atome entouré de myriades d'électrons et de particules. Qu'est-ce que l'esprit? C'est la vie grandiose dans laquelle nous sommes un électron. Et cela nous permettra en son temps de faire la distinction entre esprit et vie. Simplement comprenons dès à présent qu'il n'y a qu'une seule vie à travers les sept univers. Et qu'en fait, toute vie sur l'échelle des hiérarchies de vie pulvérise sa vie pour permettre aux vies plus jeunes de traverser leur parcours d'évolution. Faites attention aux termes employés. J'ai d'ailleurs une parenthèse à faire. Quand je vous transmets, vous pourriez imaginer que je ne suis qu'un canal. Et je vous demande d'appréhender deux aspects. Le premier, c'est que c'est comme si je n'étais qu'un traducteur. Donc vous pardonnerez à votre interlocuteur de s'exprimer parfois avec, anomalie française, mais je n'ai pas le temps de vous tourner la présentation normalement. Il m'arrive donc d'avoir des phrases qui ne sont pas forcément, comme on dit, que je ne traduis pas forcément, on va dire, dans un français littéraire. Ça, c'est le premier point. Mais par contre, à contrario, ne perdez pas éventuellement la vibration de l'enregistrement. Ce qui veut dire que sur le plan de l'écoute, il faut laisser le texte dans sa poussée vibratoire. Parce qu'elle provoque chez vous des réponses, des échos de votre être. Vous voyez ? Donc, voilà, on a ce léger problème. Alors, ce n'est pas gênant au niveau des textes que vous fassiez un ajustement au sens où ça peut être donné à tel ou tel membre, et par conséquent, il ne comprendrait pas que l'instructeur parle, comme on dit, petit nègre par moment. Hein. Mais ce qui est essentiel, c'est la vibration de la parole. En vous rappelant que je ne suis, dans la plupart des cas, que le traducteur.